Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour. Aujourd'hui, à moins d'une heure de la publication des résultats du premier tour des élections législatives, nous allons parler de la démocratie dans ce numéro d'Idée, le magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le monde, avec notre invitée Dominique Schnapper, sociologue, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre honoraire du Conseil constitutionnel. Elle vient d'écrire « Les désillusions de la démocratie », un essai publié chez Gallimard. On peut s'interroger sur les forces et les faiblesses inhérentes aux démocraties et sur l'éventualité d'un délitement intérieur, souligne-t-elle. Prendre du recul, telle est notre mission. Alors écoutons Dominique Schnapper, nous sommes allés à sa rencontre. Idée, un magazine que vous pouvez écouter quand vous le souhaitez sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Dominique Schnapper.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. Nous allons donc parler des désillusions de la démocratie. Après la fin de la guerre froide, après la chute du mur il y a 35 ans, certains pensaient que nous étions entrés dans l'ère de la démocratie et de l'économie libérale. 35 ans après, le désenchantement est là.
Oui, il y a eu une part d'illusion. En même temps, le livre qui a eu le plus d'écho dans cette dimension ne disait pas que la démocratie allait gagner politiquement, si je puis dire. Il disait qu'il n'y avait plus d'autres idées qui s'opposaient à elle.
Alors, il faut rappeler que c'est le livre de Francis Fukuyama.
Francis Fukuyama, ouais. Oui, que la chute du mur de Berlin montrait la fin du conflit de la guerre froide entre le projet communiste et le projet de la démocratie. Mais il n'en concluait pas que la démocratie allait gagner de fait. Alors, d'une part, une partie de cette analyse reste vraie, puisque les ennemis de la démocratie portent moins un projet idéologique que ne le portait le monde communiste, qui avait un projet positif d'une autre société. Mais en même temps, de l'extérieur, les attaques contre la démocratie n'ont jamais été aussi fortes. Sur la période récente, enfin, il faut remonter avant la Seconde Guerre mondiale pour trouver une situation où les attaques contre la démocratie. Et en même temps, la démocratie elle-même a tendance à se dévoyer et à ne plus croire à ses valeurs et à renoncer à ce qui faisait sa supériorité sur le reste du monde, c'est-à-dire un certain rapport à la rationalité, à la fois intellectuelle et politique.
Ça veut dire
et
qu'il
c'est
y
le
y
cœur
une...
des désillusions.
Ça veut dire qu'il y a une double menace.
Il y a une double
vous
menace.
Vous commencez votre livre avec la menace géopolitique, la menace qui vient de l'étranger, de certains pays européens, notamment, mais pas seulement, la Chine, la Turquie et autres. Mais la menace intérieure semble se préciser aussi.
Il y a cette double menace. Il faut situer nos débats, qui sont des débats d'abord franco-français, à la rigueur européen, dans la situation du monde de façon plus générale, pour se rendre compte à quel point les démocraties sont à la fois minoritaires, critiquées et condamnées par le reste du monde. Et en même temps, elles-mêmes, et il y a évidemment un lien entre la situation extérieure et la situation interne, mais elles-mêmes ont une évolution qui remet en question ce qui a justifié depuis quelques siècles leur supériorité politique, qui était à la fois une supériorité intellectuelle, c'est-à-dire la technique et les moyens à la fois de production et de communication, et d'autre part, l'idéal démocratique, même s'il n'était pas toujours respecté.
Cet idéal démocratique se voulait universel. L'universalité était au cœur de l'idéal.
De l'idéal,
on reviendra, oui. Sur cette notion de démocratie, dont vous dites que c'est à la fois une idée et un idéal. Cette notion d'universalité est remise en cause aussi aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Le reste du monde dit que l'idée démocratique est une idée européenne et qu'elle a invoqué l'universel pour se justifier, mais qu'en réalité, l'universel cachait la volonté de puissance de l'Europe et qu'il n'existe pas d'universel, que le reste du monde veut le pluriversel, c'est-à-dire un universel pluriel, ce qui me paraît un peu contradictoire dans les termes, mais en tout cas prétend, argumente que l'universel auquel se réfère, qu'invoque la démocratie, est un masque pour cacher la volonté de domination du reste du monde par les démocraties.
Or, dans cette universalité, Dominique Schnapper, il y a une conception de l'homme, une conception des droits de l'homme, une conception du droit. Il y a tout un tas de valeurs, entre guillemets,
oui. qui le sont fait impliquées. Le fait que ça ait été formulé dans la politique récente par les démocraties ne veut pas dire que ce ne soit pas universel. C'est pas parce que Galilée a montré que, enfin, ce qu'il en était entre le Soleil et la Terre, que ce n'était pas une vérité universelle, ce n'était pas une vérité italienne. Et il faut bien que les idées naissent quelque part. Le fait qu'elles naissent à un endroit précis ne veut pas dire qu'elles n'ont pas une valeur d'universalité. Et l'idée démocratique, quand elle est conforme à son idéal, est une idée qui a valeur universelle, puisqu'elle repose sur l'idée de la liberté des êtres humains, et que la liberté des êtres humains est une valeur qui peut s'appliquer à tous les peuples, quelle que soit par ailleurs leur singularité. Ce n'est pas gommer leur singularité que de dire qu'à travers les singularités particulières, il y a un horizon d'universalité.
Alors justement, une idée donc, et un horizon, un idéal jamais atteint.
C'est un
indispensable, effectivement, d'où une incomplétude que vous soulignez aussi dans votre essai.
Oui, il y a une incomplétude entre l'idéal invoqué et la possibilité de le réaliser concrètement. Il y a toujours un décalage, il y a toujours un écart entre l'idée universelle, qui est l'idée démocratique, qui repose sur l'idée fondamentale de la liberté, de l'égalité de tous les autres humains, et la réalité sociale, où les sociologues, à juste titre, rappellent d'abord que la liberté n'est jamais totale, puisque la liberté de chacun se heurte à la liberté de l'autre, et qu'elle ne peut s'exercer que dans un cadre collectif, à l'intérieur des règles qu'il organise, et qu'il peut exister une égalité civile, juridique, presque politique, mais en tout cas pas, il n'existe pas d'égalité sociale de tous les démocrates. Et donc cet écart nourrit une critique constante à l'intérieur même des démocraties. Les démocrates ont une aspiration à une liberté et une égalité totale qui ne peut pas se réaliser dans la vie telle qu'elle se déroule en elle-même.
À quoi ressemble ce que vous appelez le homo democraticus, Dominique Schnapper? Il a en tout cas des revendications qui ne sont jamais, vous venez de le dire, entièrement satisfaites.
Qui ne peuvent pas être satisfaites. Et, il y a l'écart entre les aspirations de l'homo democraticus qui se définit par sa liberté et son aspiration à l'égalité, cet égard est inévitable. Et donc, il est vécu comme une insatisfaction fondamentale, quoi qu'il arrive. Et plus l'homo democraticus est démocratique, c'est-à-dire plus ses aspirations sont grandes, plus l'écart lui paraît insupportable. Tocqueville avait fait l'observation qui reste extraordinairement juste, que plus les inégalités s'affaiblissent, plus elles deviennent insupportables, parce que l'aspiration à l'égalité ne peut être pleinement satisfaite. Alors, ce qui est vrai pour les inégalités, comme Tocqueville l'avait déjà observé, est vrai aussi pour les discriminations, c'est-à-dire que la démocratie actuelle comporte moins d'inégalités et moins de discriminations que les démocraties du passé et que les autres sociétés, mais elles sont éprouvées par les démocrates comme de plus en plus insupportables, puisque l'écart inévitable entre l'idée et la réalité, le mot démocraticus en prend une conscience de plus en plus aiguë et proteste de plus en plus alors que la société actuelle a été et est un exemple de société peu inégale et peu discriminatoire par rapport aux sociétés du passé et aux sociétés distantes dans l'espace.
Qui dit démocratie, Dominique Schnapper, dit aussi une certaine conception de la citoyenneté, du citoyen.
La légitimité politique de la démocratie est fondée sur l'idée du citoyen et de l'universalité de la citoyenneté, par-delà la diversité des origines, des capacités, des conditions sociales et des affiliations religieuses, ce qui est une idée à vocation universelle. Et c'est en respectant les conditions de l'exercice de la citoyenneté que s'affirme la légitimité de la démocratie, la légitimité politique de la démocratie.
Un citoyen qui doit supporter, entre guillemets, qui doit accueillir l'autre.
Un citoyen qui s'inscrit dans un projet d'universalité qui fait que l'autre, quelle que soit son origine, ses croyances et sa condition sociale, a vocation de détenir tous les droits du citoyen. Il a fallu du temps pour l'instaurer, puisque la Révolution, après avoir affirmé l'universalité de la citoyenneté, avait distingué des citoyens actifs et des citoyens passifs. Et il a fallu attendre 1944 pour un suffrage universel qui écarte cette distinction entre les actifs et les passifs. Il y a encore quelques dizaines d'années, les nouveaux naturalisés n'avaient pas pleinement les droits des citoyens. Je crois que c'est du temps de Giscard que les nouveaux naturalisés pouvaient devenir fonctionnaires, par exemple, ce qui n'était pas le cas. Donc la vocation universelle de la citoyenneté a mis dans le premier pays, à peu près le premier pays, ou en tout cas en même temps que les États-Unis, l'universalité de la citoyenneté, de l'appliquer concrètement, en réalité, à toutes les populations.
Il y a donc au cœur de votre essai cet accueil de l'autre, cette notion de l'autre, avec, à contrario, le racisme et l'antisémitisme.
L'accueil est dans le principe.
Maladie de la démocratie,
certaines démocraties. L'accueil de l'autre fait partie de l'idée, et en même temps de l'idéal, de l'idée démocratique, à condition qu'il respecte les règles communes. Mais à l'intérieur des règles communes, l'accueil de l'autre s'inscrit dans cette vocation universelle de la citoyenneté. Ça, c'est l'idée, c'est l'idéal. Ensuite, on constate la société telle qu'elle fonctionne, et les démocraties n'ont pas réussi à éliminer ce qui est contraire à leurs principes, ce qui est contradictoire avec leurs valeurs, c'est-à-dire, entre autres, le racisme et l'antisémitisme. Et le cas des États-Unis est de ce point de vue-là flagrant, puisque c'est la seule nation démocratique qui soit née sous forme démocratique. Les autres pays étaient des pays aristocratiques qui ont adapté avec plus ou moins de difficulté les principes démocratiques. En revanche, les États-Unis sont la démocratie qui s'est construite dès l'origine en tant que démocratie fondée sur la liberté. C'était à ce moment-là la liberté religieuse, mais c'était en même temps la liberté politique et un fondement d'égalité. Et le problème de l'esclavage noir n'est pas, même si la condition des Africains américains est sans rapport avec ce qu'elle a été dans le passé, mais malgré tout, le poids de l'esclavage des Africains amenés pour travailler dans les plantations du Sud reste un phénomène, une dimension de la vie politique américaine, dont les Américains ne sont pas complètement sortis.
Au cœur donc de la démocratie, il y a cette notion de citoyenneté. Dans cette citoyenneté, il y a aussi la notion d'identité, qui pose aussi des questions politiques, philosophiques, et qui peut, ce mot identité, cette réalité de cette notion d'identité peut aussi poser de graves problèmes à la démocratie.
C'est-à-dire que la vocation universelle du citoyen n'est pas contradictoire avec les identités particulières. Et la démocratie s'efforce de donner des droits civils, juridiques et politiques égaux à des populations qui sont diverses et qui ont des identités, c'est-à-dire des expériences historiques et des fidélités à des expériences historiques particulières, la place qu'elles peuvent avoir, à condition qu'elles ne soient pas contradictoires avec la liberté et l'égalité de tous les citoyens. Mais à l'intérieur de la liberté et l'égalité de tous les citoyens, toutes les singularités qui ne sont pas contradictoires avec ces valeurs font partie naturellement de l'ordre démocratique. Et il faut opposer l'identitarisme au républicanisme, si on veut, que quand les affiliations identitaires sont contradictoires avec les valeurs de l'universalité du citoyen.
Suite de ce numéro d'idées en compagnie de Dominique Schnapper, qui vient d'écrire « Les désillusions de la démocratie » chez Gallimard, dans la collection Connaissance. Dans ce livre qui est absolument passionnant, vous avez une analyse de cette notion de délégation. C'est-à-dire qu'une démocratie, cela veut dire que l'on élit des représentants. Or, cette délégation, aujourd'hui, suscite aussi, chez certains, un débat, voire une controverse. Élire son représentant, certains disent pourquoi, finalement.
Oui, délégation a été le terme de l'origine. Quand on a construit l'idée de la République représentative, on utilisait le terme de délégation, c'est-à-dire dans le langage plus contemporain, le terme de représentation, ce qui est la même chose. Et à la fois pour des raisons pratiques, les grandes démocraties ne peuvent pas régler leurs affaires comme les cantons suisses. Et au XVIIIe siècle, on pensait que la démocratie était contradictoire avec les grandes nations européennes, parce que justement, elles étaient trop nombreuses et que la véritable démocratie, c'était la démocratie directe. Et ce que nous appelons la démocratie directe, c'est-à-dire ne passant pas par la médiation des gens qui sont élus. Donc il y a une raison pratique et en même temps, l'expérience a été faite, en particulier aux États-Unis, au moment où s'est établie la Constitution américaine, que pour régler les problèmes de la vie commune, il fallait avoir des médiateurs, ceux qui s'engageaient dans le problème de la vie commune et ceux qui restaient soumis à l'élection de ceux qui les avaient élus, mais disposaient d'une certaine liberté pour régler les affaires communes. Et il y a eu, avant que soit adoptée la Constitution américaine, il y a eu des essais de démocratie directe, c'est-à-dire de mandat impératif à des gens qui étaient soumis à réélection au bout d'une année. Et on a constaté que ça ne pouvait pas marcher parce qu'une fois qu'on est en responsabilité, on voit que les problèmes se posent d'une autre façon que les électeurs. Mais a donc l'idée de, jusqu'à présent, la seule expérience en dehors du cas marginal des cantons suisses, la seule expérience de démocratie a été la démocratie représentative, c'est-à-dire le passage par l'élection. Et c'est pour ça que l'élection est importante, puisque c'est le choix de ceux qui seront légitimes pour adopter des dispositions. Et les dispositions communes comportent très souvent des dispositions qui paraissent désagréables aux démocrates. Et ce qui est frappant en ce moment, et ça n'est pas seulement les derniers événements, c'est depuis des décennies, ce qui est frappant, c'est le rêve ou le désir ou l'aspiration à une démocratie plus directe et la réticence vis-à-vis de l'idée de représentation. Et ça repose sur l'individualisme démocratique à partir du moment où je suis autonome, je suis indépendant, je ne peux pas céder de mon pouvoir à un autre. Personne ne peut me représenter que moi-même, d'une certaine façon. Et donc, cette aspiration démocratique est un risque de dévoiement de la pratique de la République représentative qui, jusqu'à présent, est la seule qui a pu fonctionner et qui remet en question un peu cette aspiration à une sorte de liberté absolue, d'autonomie absolue de l'homo democraticus quand il pousse la liberté jusqu'au bout, c'est-à-dire ne tenant pas compte des conditions collectives et des institutions collectives à travers lesquelles cette liberté peut s'exercer.
Vous analysez, Dominique Schnapper, cette notion de délégation, donc. Vous analysez aussi la notion de pouvoir et vous soulignez le caractère sacré du pouvoir. Vous écrivez que l'élection, en quelque sorte, a remplacé le sacre.
Oui, nous avons...
En tout cas, en France.
Le caractère sacré du pouvoir, les anthropologues l'ont étudié à travers, et les historiens l'ont étudié à travers beaucoup de sociétés. Et on retrouve toujours quelque chose de ça. Le pouvoir, c'est pas la relation égalitaire. Ça comporte une dimension et qui a souvent été considérée comme sacrée. Alors, dans des sociétés qui sont sécularisées dans leurs principes, il n'y a plus ce sacré, le sacre de Reims. C'était pour le roi conduit par Jeanne d'Arc, ça, nous n'avons plus ça. Mais il reste des formes de distinction de celui qui a été élu. Et je pense qu'il serait grave qu'il n'y en ait plus du tout. Parce que le pouvoir, c'est justement une forme de relation qui impose... une contrainte sur ceux sur lesquels il s'exerce. Et il faut accepter que cette contrainte soit légitime. Et pour qu'elle soit légitime, il faut que celui ou celle qui l'exerce ait quelque chose de plus et qu'on accepte qu'il ait quelque chose de plus. Le plus pouvant être simplement l'élection. Mais l'élection doit lui donner quelque chose de plus pour qu'il puisse exercer un certain pouvoir.
Dominique Schnapper, vous parlez de la haine. Aujourd'hui, dans la démocratie, la haine dans l'exercice de la démocratie sur le plan politique. Et vous citez Stendhal, Les mémoires d'un touriste. Il faut lire je vais lire cette phrase, si vous le permettez, parce qu'elle résonne étrangement aujourd'hui. Stendhal qui écrivait ceci. « Je ne sais si le lecteur sera de mon avis. Le grand malheur de l'époque actuelle, c'est la colère et la haine impuissantes. Ces tristes sentiments éclipsent la gaieté naturelle au tempérament français. Je demande qu'on se guérisse de la haine, non par pitié pour l'ennemi, auquel on pourrait faire du mal, mais bien par pitié pour soi-même. Le soin de notre bonheur nous crie « chassez la haine » et surtout la haine impuissante. » On croirait qu'il a écrit ces phrases aujourd'hui.
Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que la démocratie repose effectivement sur le débat, bien sûr, et ensuite, le respect commun des règles communes. Et les adversaires politiques ne doivent pas être des ennemis. Ils ne sont pas des ennemis, ils sont des adversaires politiques. Or, ce qu'on voit grandir de façon caricaturale aux États-Unis, c'est la haine qui maintenant sépare les deux grands partis, alors que jusqu'à une date récente, ils collaboraient jusqu'à un certain point pour des décisions qui apparaissaient d'intérêt commun pour les uns et pour les autres. Quand la haine s'exprime entre les adversaires politiques, on remet en cause le fonctionnement normal des institutions. Tocqueville disait « les démocrates sont doux ». Alors je ne sais pas s'ils le sont, mais ils doivent l'être dans la mesure où les débats publics ne doivent pas conduire à des haines personnelles et à des haines à l'égard du système social, mais à la nécessité des débats, c'est-à-dire des compromis et éventuellement des accords sur des points particuliers. Et quand on est dans l'opposition radicale, systématique et totale, on empêche ce fonctionnement délicat du commun de tous ces individus différents, parce qu'on nourrit les singularités, les différences et les oppositions, alors que le système politique doit être justement, au contraire, de les unir par les institutions communes et le respect commun des règles de la vie en commun. Et la haine, donc, corrompt absolument ce fonctionnement difficile d'une singularité et d'une diversité de faits avec la pratique commune des institutions politiques.
Et il y a au sein des démocraties des penseurs, des intellectuels, des gens qui considèrent que finalement la démocratie n'est pas un modèle, que l'on peut l'adapter et que telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas viable.
Oui, et
il y a une menace sérieuse à l'intérieur même sur le plan des idées.
Il y a une critique des intellectuels, et peut-être plus grave que cette critique des intellectuels, il y a une critique des jeunes générations,
oui,
dont les réponses aux différents sondages et aux différentes enquêtes qui ont été faites par mes collègues sociologues montrent à la fois une très grande méconnaissance et très peu de respect ou d'aspiration à la démocratie. Or, la démocratie ne vit que si les démocrates la pratiquent, les conditions d'exercice de la démocratie. Elle n'a pas de... Et je pense qu'il y a vraiment, il y a effectivement des dévoiements qui sont inquiétants, parce que la critique tout à fait juste sur les limites de la démocratie empêche de voir, d'une part, que ce sont des limites qui sont inévitables, qui sont inscrites dans la nature même des sociétés humaines, et d'autre part, que c'est tout de même la démocratie qui est la moins infidèle aux valeurs dont il se réclame. Et les critiques radicales de la démocratie et l'idée qu'un autre régime serait meilleur, c'est au nom des valeurs démocratiques et contre les sociétés qui les respectent, non pas le mieux, mais le moins mal. Mais le moins mal n'est pas un argument très porteur dans les campagnes électorales.
Suite de ce numéro d'idées, suite et fin de ce numéro d'idées en compagnie de Dominique Schnapper, il y a également parmi ces menaces, ces désillusions, en tout cas ces débats autour de la démocratie, ce que Jean-François Brochstein, qui est venu dans notre émission, qualifie de religion woke. Vous y consacrez aussi un chapitre, car selon vous, c'est aussi quelque chose qui peut menacer la démocratie.
C'est une forme de dévoiement, oui, c'est une remise en question De la rationalité du savoir, qui est un grave dévoiement de l'idée démocratique, parce qu'encore une fois, l'idée démocratique a été liée à la domination européenne. La domination européenne reposait sur la rationalité de la science et de son application à la production et à la communication, et que le mouvement woke, par son extrémisme et sa radicalité, remet radicalement en question cette rationalité. Alors, s'agit-il d'une religion séculière comme le communisme l'a été à une certaine époque ? Moi, je l'interprète plutôt, il en a certains des traits, hein, comme toutes les passions collectives. Et on peut tout à fait, comme le fait Jean-François Brochstein, montrer les dimensions religieuses que prend le mouvement. Mais je l'interprète plutôt comme une forme de dévoiement de l'idée démocratique, ce qui d'ailleurs n'est pas contradictoire avec l'interprétation aux formes religieuses que prend ce dévoiement. Mais il me semble que plus profondément que la religion, c'est surtout un dévoiement de l'idée démocratique, parce que c'est au nom de l'égalité qu'est mené le mouvement postcolonial, c'est au nom de l'égalité qu'est mené les formes radicales du genre et le refus de la distinction des genres. C'est au nom d'une égalité fictive et totalement, qui me paraît personnellement absurde, mais c'est au nom des valeurs démocratiques, c'est-à-dire que ça n'oppose pas un autre système de valeurs à celui des valeurs démocratiques. Alors que les religions, et même les religions séculières, opposent plutôt un autre système de valeurs. Donc il me semble que l'observation des formes religieuses que prend le mouvement, ou de religion séculière en tout cas, n'en épuise pas le sens, et que son sens profond est celui du dévoiement des idées démocratiques.
Et il y a également, la liste est longue, vous l'analysez dans ce livre, des menaces sur la démocratie. Il y a aussi cette question du populisme et de cet antagonisme entre le pays officiel et le pays légal dont
on revient à Maurras. On revient à Maurras quand on parle de cette opposition entre le peuple et ses représentants, c'est l'idée maurrassienne.
Oui, c'est-à-dire qui constitue là aussi une menace.
Une vraie menace et une régression. On a vu à quoi ça a mené. Mais c'est vraiment l'idée maurrassienne, l'idée que le peuple direct s'oppose à ceux qu'il a choisis, remet en question le fonctionnement d'idées démocratiques.
Mais on va terminer avec ça. Cette fois, la menace extérieure contre la démocratie, la menace russe contre la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ne redonne pas, en revanche, de la valeur à la notion de démocratie. L'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe aussi, d'ailleurs.
C'est ce qu'on peut espérer, c'est que les générations actuelles qui n'ont pas eu d'expérience de la guerre et qui n'ont même pas eu l'expérience de la guerre transmise par leurs parents, puisque c'est avec l'évolution du temps, prennent conscience du caractère extraordinairement privilégié que les démocraties européennes ont fait depuis la guerre, depuis la Seconde Guerre mondiale. On a rarement connu on n'a pas connu une société aussi riche et aussi libre que nos démocraties. Et si on veut avoir une certaine forme d'optimisme, on peut penser que la guerre à nos frontières pourront faire prendre conscience à nous, démocrates gâtés, du sens et de la valeur de la démocratie. Sens et valeur relatifs, mais quand même essentiels. Toujours par Churchill, vous savez.
Le mot, oui, la démocratie, le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Êtes-vous, c'est une question personnelle, en tant que femme, en tant qu'universitaire, chercheuse, particulièrement inquiète de la situation que nous vivons depuis quelques années sur ces menaces de la démocratie? Est-ce que pour vous, c'est une période historique? Le mot est galvaudé, mais vraiment historique.
Oui, je suis inquiète. Le livre précédent s'appelait « Temps inquiet ». Il était à propos de la condition juive, mais la condition juive est toujours un témoignage de la situation.
Mais sur ce point-là, il y a effectivement de quoi être inquiet, oui.
Oui. Et oui, je suis inquiète par le développement de l'antisémitisme, par le phénomène Trump aux États-Unis. Nous avons vécu sous la protection de la puissance américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Les Américains s'intéressent de moins en moins à l'Europe. Ils veulent en partir. L'image qu'ils donnent de la démocratie dévalue l'image de la démocratie dans le reste du monde. Et les démocrates remettent en question ce qui est au cœur de la pratique démocratique. Et les Russes sont tout de même appuyés par la Chine, par la Corée du Nord, par l'Iran. Et les autres pays partagent le sentiment d'hostilité à l'égard de l'ancienne puissance qui était la puissance européenne. Et la démocratie a toujours été liée à cette puissance européenne. Donc je suis inquiète pour l'Europe et pour la démocratie.
Et lucide, ce qui vous caractérise.
Je ne sais pas si je suis lucide, mais j'essaye de... Tout ce que je peux faire, c'est d'essayer de comprendre et de transmettre.
Merci, Dominique Schnapper. Dominique Schnapper, sociologue, membre honoraire du Conseil constitutionnel, elle a écrit « Les désillusions de la démocratie », un livre publié chez Gallimard. Idée réalisée bien sûr par Vanessa Rovensky, prise de son Nicolas Benita. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à cette heure-ci bien sûr. Dans un instant, la démocratie à l'œuvre avec les premiers résultats du premier tour des législatives et le début de notre soirée spéciale avec la rédaction. Résultats, commentaires, analyses, c'est dans un instant.